Frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre deuxième série concernant la guérison. C'est la deuxième série parce que c'est très important, ce thème. Nous en sommes donc à l'étude numéro 35 et le titre très important pour aujourd'hui, c'est la délivrance et l'exorcisme. Chers frères et sœurs, on peut se demander ce que fait dans une étude sur la guérison un chapitre sur la prière de délivrance des esprits mauvais. À vrai dire, j'ai pensé à ne pas l'introduire car c'est un sujet très controversé. Néanmoins, voyez-vous, cela fait partie de la guérison au sens large, c'est-à-dire, cela nous délivre du mal qui nous accable et nous empêche d'être complètement libres et bien vivants. Quelqu'un qui exerce un ministère de guérison doit, au moins, il devrait comprendre les quatre sortes essentielles de guérison, également la dernière qui concerne la délivrance. Aussi, je voudrais faire ici la distinction entre, premièrement, l'exorcisme que je considère être une prière ecclésiastique solennelle pour libérer quelqu'un qui est possédé ou oppressé par les démons, et deuxièmement, la délivrance que je considère comme un procédé pour libérer quelqu'un qui est tyrannisé par de mauvais esprits, principalement par le moyen de la prière. Oui, chers amis, tout d'abord, nous devons savoir s'il s'agit de possession démoniaque ou d'oppression. J'ai dit que mes réticences initiales au sujet du ministère des délivrances venaient de la crainte d'évoluer dans un domaine qui approche la superstition et la religion primitive. Quelques-uns de mes proches amis admettent facilement que la guérison est un merveilleux ministère de l'amour de Dieu. Mais le fait qu'on insiste sur le démoniaque, cela leur paraît être une régression de l'esprit dans le domaine de la superstition. Le mal qui est dans notre nature humaine est une raison suffisante, disent-ils, pour expliquer ce qui ne va pas en ce monde. Quand on dit que Jésus chassait les démons, et cela est vrai, il parlait selon la mentalité de cette époque qui attribuait aux esprits mauvais les maladies mentales. Parlant de démons, cela nous fait revenir au Moyen Âge ou à l'époque de la chasse aux sorcières à Salem. Mais, par conséquent, je suppose que des chefs ou pasteurs intelligents vont s'interroger sur l'existence véritable de démons et se demander si la résurgence, l'augmentation de l'exorcisme n'est pas plutôt une régression malsaine qu'un pas en avant vers le salut. Donc proposer la nécessité d'un tel ministère, disait-il, qui est au-delà de l'objectif de certaines études, eh bien, nous voudrions éviter tout malentendu. car j'ai moi-même été personnellement convaincu par l'existence des démons, ayant été moi-même délivré d'un certain nombre de ceux-là, il y a fort longtemps de cela, mais vous comprendrez que quand vous êtes l'enfant d'un père qui s'est marié 5 fois, avec toutes les violences et les choses affreuses que cela consiste, il est tout à fait compréhensible que cela a des répercussions sur les enfants. N'importe qui de sensé va pouvoir comprendre cela. Donc, premièrement, revenons à notre étude. L'enseignement constant de l'Église chrétienne, qui remonte au temps des apôtres, cet enseignement est le même aujourd'hui, tout à fait le même, parce que la Sainte Bible n'a pas changé. Quelles sont les plus grandes utilités de l'Église actuelle? Que cette réponse ne vous surprenne pas par sa grande naïveté ou même sa superstition et son irréalisme. Une de ses plus grandes utilités est de défendre, me semble-t-il, de défendre contre le mal. Il faut aider les gens à pouvoir être défendus contre le mal qui existe autour de nous. Et je pense qu'on peut donner un nom à ce mal. Il s'appelle le diable, Satan, Lucifer. Le mal n'est pas uniquement le manque de quelque chose, mais c'est un agent réel, c'est une entité vivante et spirituelle qui est pervertie et qui est pervertisante. Donc c'est une réalité terrible et non pas quelque chose de virtuel. Refuser de reconnaître l'existence de cette réalité est absolument contraire à l'enseignement de la Bible et de l'Église. L'expliquer comme étant une pseudo-réalité, une personnification conceptuelle et fantaisiste des causes inconnues de nos infortunes, etc. Voyez-vous, il n'est pas seulement question d'un démon, mais de plusieurs. C'est indiqué dans divers passages des saintes évangiles. Notez Saint Luc simplement, chapitre 11, verset 21, Saint Marc, chapitre 5, verset 9, et on pourrait en citer des quantités. Mais le principal, c'est Satan. Satan qui représente l'adversaire. Il est l'ennemi et toutes les créatures de Dieu qui ont été déchues à cause de leur rébellion ont été damnées et c'est donc un univers mystérieux, un univers bouleversé par un drame atroce dont le tout de ce drame nous échappe parce que nous n'en connaissons pas tous les détails. Mais j'en viens à deuxièmement. En plus, voyez-vous, de cette antique tradition de l'Église, ma propre expérience, elle m'a tout de même convaincu. Elle m'a convaincu absolument de la réalité de ces choses. Évidemment, ce genre de critères exige d'être utilisé avec précaution. Il faut être prudent, mais le don de discerner des esprits trouve sa signification quand il nous aide à savoir si nous avons affaire à un problème simplement humain ou à un cas causé ou qui serait aggravé par la présence d'esprits mauvais. Dire d'une personne qu'elle est un cas de schizophrénie ou d'autres maladies mentales n'explique pas toujours pourquoi et comment apparaissent ces symptômes particuliers. Si la cause est d'origine démoniaque, le remède approprié est alors l'exorcisme. Et avant, je pense que si quelqu'un était psychopathe ou schizophrène, le seul moyen était de l'envoyer à un psychiatre ou à un hôpital psychiatrique. Mais aujourd'hui, il y a des centaines de psychopathes et de schizophrènes qui se promènent dans nos rues. Maintenant, j'en viens à croire que beaucoup de ces patients peuvent être aidés par la prière de délivrance si la raison de la psychose est démoniaque. Et ce genre de prière devrait être travaillé le plus idéalement possible. En résumé, nous avons tendance à diagnostiquer que les divers problèmes personnels sont névrotiques ou psychotiques. Mais de telles appellations n'amènent pas à la cause principale de ces problèmes. Nous pensons qu'envisager ces problèmes comme étant démoniaques d'origine est primitif et superstitieux. Mais pourtant de dire qu'une personne qu'elle est schizophrène, cela ne définit pas les symptômes, ni ne peut l'aider à se relever de son état. Donc lorsqu'on a affaire à un psychopathe, il n'est pas prudent de conclure précipitamment que la personne a besoin de la délivrance. Peut-être oui. D'autre part, ceux qui ne sont pas prêts à admettre la possibilité que ces problèmes tels la schizophrénie peuvent être créés par l'intervention du démon empêchent la guérison du patient si la cause de sa maladie est en partie ou même entièrement d'origine vraiment du mal, d'origine démoniaque. Pendant la prière de délivrance, j'ai vu également des phénomènes étranges qui, croyez-moi, je pense, peuvent mieux s'expliquer par une activité démoniaque. Et de tels phénomènes comprennent, tels que se jeter à terre, oui, ça existe, ou des paroles affreuses, apparemment qui viennent des démons, et qui s'expriment par la bouche de la personne. Par exemple, un démon par la bouche de la personne peut dire « Tu ne nous chasseras jamais car nous sommes trop forts et trop nombreux pour toi. » Je sais que ces phénomènes peuvent s'expliquer autrement, mais pour moi, la meilleure explication reste la plus directe car ces voix peuvent effectivement être d'origine démoniaque. Je connais quelques personnes qui ont prié vraiment pour la délivrance et qui sont aussi rationnelles et sophistiquées dans leur compréhension de ces problèmes que n'importe qui. Cependant, au cours d'exorcismes, ces personnes ont été surprises par ce qui s'est produit. Après avoir prié pour la délivrance, un changement va s'opérer souvent chez ceux qui n'ont pas pu recevoir d'aide d'aucune sorte avant. Ils ont été chez des médecins, des psychiatres, et rien n'a pu les aider. Et voilà que là par la prière. La personne se rend compte immédiatement de cette transformation. Elles disent « J'ai senti que quelque chose m'a quitté. » Et les autres s'en aperçoivent aussi, tout simplement par l'expression nouvelle de liberté et de joie dont témoigne maintenant la personne. Quelqu'un a écrit après une prière de délivrance « Je me sens privilégié et si favorisé par Dieu, le Seigneur qui m'a incité à venir pour la délivrance, pour qu'on prie pour moi, pour pouvoir guérir et de revenir un être nouveau. » Vous devez savoir, c'est ce qu'elle écrit, vous devez savoir à quel point c'était important pour moi. C'était même une question de vie ou de mort. Donc ma gratitude va prendre la forme d'une totale soumission à Dieu. Ce que j'ai fait également. J'ai enfin la possibilité de m'ouvrir à lui, au Seigneur, complètement, sans être gêné par ces vieux obstacles qui m'ont éloigné de lui. L'expérience de ces quelques dernières années m'ont convaincu du besoin vital de comprendre encore mieux ce ministère important de délivrance. Mais le mot que le Nouveau Testament traduit souvent par « posséder », cela signifie en réalité, dans le grec ancien, être démonisé ou avoir un démon. Ce qui est d'une signification plus étendue. Je trouve que la possession est rare, mais ceux qui sont démonisés par contre, qui sont attaqués par des forces démoniaques, sont relativement nombreux, surtout de nos jours où les gens se droguent, boivent beaucoup trop, font n'importe quoi. Si quelqu'un est opprimé par des esprits malfaisants, un exorcisme informel, une prière pour la délivrance sera de mise. Derek Prince, qui a écrit de nombreux livres sur ce sujet, a comparé ce genre d'oppression à l'invasion d'une cité sur laquelle on a en majorité le contrôle, mais dont certains quartiers demeurent totalement sous la domination de l'ennemi. Quand quelqu'un a un problème de conduite invétéré à un moment donné de sa vie, tel que la toxicomanie, cela peut laisser supposer qu'une prière de délivrance va pouvoir libérer cette personne. Question importante. Quand la délivrance est-elle vraiment nécessaire? Ce qui suit, chers amis, ce sont des signes qui peuvent indiquer la nécessité de la prière pour la délivrance. Premièrement, la notion de contrainte. Par exemple, quand quelqu'un tente, au bout d'un moment, de désirer de changer, mais qu'il ou elle en est totalement incapable, même après avoir fait tout son possible pour s'autodiscipliner. Là, la prière pour la guérison intérieure, aussi bien que celle pour la délivrance tout court, ou les deux à la fois, peuvent être la bonne réponse. Des problèmes qui concernent souvent des contraintes interne, comprenant par exemple la toxicomanie, l'alcoolisme invétéré, l'autodestruction et la masturbation exagérée, aussi bien pour hommes et femmes, parfois jusque à se faire du tort. Là, on a besoin de discernement pour décider de la façon d'aborder chaque problème. Et je citerai A, B, C. A, nous avons tout d'abord le repentir. Il ne faut pas avoir peur de s'humilier et de se repentir. Ensuite, nous avons besoin de l'autodiscipline et la volonté. Ce n'est pas au Seigneur de tout faire pour nous, ce n'est pas notre esclave. Nous devons exercer la discipline et la volonté, et chaque être humain en a la possibilité. B. Il y a la guérison intérieure des blessures du passé qui sont importantes. Et C, nous avons maintenant la délivrance. Mais la contrainte est un indice des forces démoniaques en jeu. Deuxièmement, quelqu'un qui demande une prière sait très bien que son problème est d'ordre démoniaque, et il ou elle vous le dira. Bien sûr, cette personne peut aussi être gratifiée d'une grande imagination après avoir peut-être vu certains documents à la télévision ou dans des magazines, et ça peut fantasmer. Par conséquent, lorsque les gens demandent un exorcisme, nous sommes en droit de les questionner de très près, comme le ferait n'importe quel médecin. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes habitués à nous montrer soupçonneux à l'égard de tels contes d'horreur démoniaques, et nous imputons cela souvent à l'hallucination ou à quelque autre aberration psychique. Mais certains de ceux qui racontent ces histoires qui paraissent insensées, ces histoires peuvent être absolument authentiques. Donc mon impression est que les pasteurs qui possèdent un intellect conséquent tente à discréditer toute histoire d'activité diabolique, alors que des exorcistes officieux, avec souvent peu de formation, croient absolument tout ce qui est écrit dans la Sainte Bible et utilisent le peu qu'ils ont appris et qu'ils comprennent pour venir en aide à ceux qui souffrent. Mon expérience m'a amené à croire que bien des gens ont eu des problèmes avec le mal qu'ils voudraient bien raconter. Ils aimeraient raconter le mal qui subit en eux et dont ils souhaiteraient être libérés. Mais l'attitude suspicieuse que certains prêtres et certains pasteurs leur ont si souvent montrée, cela les incite à taire leurs soupçons si la véritable cause de leurs problèmes est d'origine diabolique ou non. Et troisièmement, si la prière pour la guérison intérieure ne semble rien apporter, cela peut être un signe que la délivrance est absolument nécessaire. J'en suis venu à m'attendre à ce que la prière pour la guérison intérieure produise des effets perceptibles. Et si après la prière, on vous dit « Oh, je me sens toujours comme si j'étais encore asservi », eh bien, cela devrait nous signifier que cette personne a encore besoin de prières supplémentaires et qu'il faut encore se battre et chasser ce qui est un obstacle pour arriver à la délivrance de la personne. Voyez-vous, d'après ce que j'ai vu de l'activité de ce monde infernal, ils essayent d'habitude de convaincre les personnes affligées qu'elles sont indignes, qu'elles ne méritent pas ni d'amour, ni d'être aidées. Le mieux pour eux, ce serait qu'ils se suicident. Ça, c'est le travail des démons. Pourtant, tous ces problèmes décrits dans le journal d'un perdant peuvent aussi avoir pour cause des blessures psychologiques et un passé très malheureux, ce qui fut mon cas. Plus précisément, un grave problème personnel peut également avoir un grand nombre de causes possibles. Par exemple, la personne dépressive a besoin parfois de se repentir. Nous devons être assez humbles pour nous repentir. C'est très important de s'humilier et de se repentir d'un péché qui serait peut-être secret et qui nous accable, qu'on ne veut pas raconter. Ou quelqu'un avec un problème de déséquilibre hormonal, ça existe. Cette personne aura besoin de soins médicaux, ça va sans dire. Ou, ensuite encore, d'une prière de guérison dans le cas de dépression. Un autre, n'ayant jamais connu l'amour d'une mère et d'un père, va nécessiter une assistance psychiatrique parfois. Et bien entendu, une prière pour la guérison intérieure. Un autre encore, opprimé par les puissances du mal, qui le conduisent à la dépression et au désespoir, a besoin d'une prière pour la délivrance. Et dans tout cela, il est donc clair que nous avons grand besoin du don de discernement. Le discernement pour être assuré de la présence des esprits malins. Si nous n'avons pas nous-mêmes ce don particulier, nous pouvons le demander au Seigneur. Mais nous pouvons aussi aller voir quelqu'un de notre connaissance qui le possède et nous pouvons l'intégrer à notre équipe de prière. Sans cela, nous devons observer le comportement des gens pour qui nous prions et d'écouter attentivement leur histoire et juger le plus précautionneusement possible, et j'ajoute humainement possible. Nous devons donc progresser à partir de tout cela. À cause de la nature délicate de ce ministère, celui qui prie pour la délivrance nécessite plus qu'aucun autre pasteur le don de discernement. Quand on prie pour la guérison et qu'elle n'a pas lieu, pourvu que la personne qui prie soit exercée dans une atmosphère d'amour. Les prières doivent être dans une atmosphère d'amour et le patient sera toujours béni. Mais si l'on prie pour la délivrance et que rien se produit, ça peut arriver. Il ou elle va tomber sous le coup de la condamnation. Croyons peut-être que l'on a découvert en lui ou en elle une activité démoniaque à laquelle on ne peut rien remédier et qu'on ne pourra jamais rien faire. Donc la délivrance doit être administrée avec beaucoup de précautions et uniquement si, en priant, on juge que l'activité démoniaque est réelle et que Dieu désire vraiment que l'on prie pour cette personne à tel moment. La prière pour la délivrance est radicalement différente de celle pour la guérison tout simplement normale, et donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Expliquons-nous, premièrement, alors que la prière pour la guérison, elle s'adresse à Dieu le Père et à Jésus-Christ, une prière de délivrance, ce n'est pas tout à fait pareil. Une prière de délivrance, d'exorcisme, n'est pas vraiment une prière dans le même sens que pour une maladie, mais c'est une injonction qui est adressée au démon. Et c'est donc adressé à l'oppresseur. Et deuxièmement, alors que la prière de guérison est une demande, celle de délivrance consiste à ordonner. Pour quelqu'un ayant le don de la foi, la prière de guérison peut être un commandement. On dira « Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche ». Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Mais la prière de délivrance est toujours un commandement aux forces des démons en leur ordonnant de partir. Ils doivent partir au nom de Jésus-Christ, comme l'a fait saint Paul pour les esprits qui influençaient l'esclave devineresse. Il a dit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cette fille. » Actes, chapitre 16, verset 18. L'exorciste, donc, c'est celui qui investit de l'autorité de Jésus-Christ, ordonne aux esprits malins de partir. Et cette injonction doit être faite sans crier, pas besoin de hurler, comme je l'ai vu dans certains groupes de prière. Il faut simplement prier avec fermeté et avec autorité. Notre concentration à chasser les démons ne devrait jamais occulter notre priorité qui est d'administrer aux êtres humains offensés la miséricorde et la guérison de Jésus. nous n'avons pas pour premier objectif de nous battre contre les démons, mais d'enseigner l'amour à ceux qui souffrent. Les personnes à qui nous nous adressons doivent pouvoir sentir que nous les aimons. Un ministère de délivrance équilibré doit être considéré dans le cadre d'un ministère plus large de guérison. Les idées suivantes font souvent l'unanimité des personnes que je connais et qui ont le plus d'expérience et de sagesse dans le ministère de délivrance. Premièrement, la prière de délivrance ne devrait pas être introduite sans demande de discernement au préalable. C'est comme une opération chirurgicale importante. Elle ne devrait pas être proposée à la légère. Bien des gens ont besoin de la prière de délivrance. Je le crois. Mais on ne devrait pas se précipiter. Il y a là un grand besoin de pouvoir les suivre. Si l'on ne peut donner suite, s'il n'y a pas de communauté chrétienne pour aider à l'évolution de la personne, alors nous devrions réfléchir avant de nous embarquer dans une prière qui ne pourra pas être achevée. Donc l'état de la personne peut devenir pire que ce qu'il était auparavant. Un pasteur s'est vu un jour engagé à prier pour la délivrance d'un certain nombre de gens. Ils en avaient tous grand besoin et ils l'ont appelé à toute heure du jour et de la nuit. Mais lorsque il a terminé de méditer sur cette situation, son intuition lui dicta de ne plus prier pour trop de gens à la fois, mais pour une personne seulement à la fois. Et c'est ce qu'il a fait, et après quelques mois, l'homme ou la femme pour qui il a prié ont été totalement délivrés. Deuxièmement, la prière devrait être faite en privé, et cela de manière à ne pas exciter les curieux. La foule qui s'était précipitée pour voir le fameux film « L'exorciste » prouve combien est grande la curiosité. Seules les personnes d'une grande maturité seraient admises à y participer. La prière de délivrance devrait être faite en équipe plutôt que solitairement. Une équipe est préférable, et cela pour plusieurs raisons. La plus évidente d'entre elles est la diversité des dons que la communauté chrétienne peut apporter. Quelqu'un, par exemple, sera mieux qualifié pour dire la vraie prière de délivrance. Une autre personne pourra avoir le don de discernement afin de pouvoir définir pourquoi on doit prier et à quel moment, alors que d'autres encore pourront apporter le soutien de la prière de la personne et à celui qui prie pour la délivrance. Parfois la prière, elle va être courte, mais elle peut aussi durer un certain temps, car la délivrance ne se fait pas en claquant des doigts. Il est très important, au début de la prière, de demander la protection Je répète, il est très important au début de demander la protection. Je prie toujours pour que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse entourer et protéger tout le monde dans la salle ou dans la demeure de la personne. Quelques-uns demandent aussi la protection et le soutien des anges, car les anges qui sont restés fidèles, ils sont importants. Ce n'est pas la même chose que les anges déchus qui sont devenus des esprits maléfiques. Je prie pour que aucune puissance maléfique ne puisse blesser personne dans cet endroit lorsque les démons seront chassés par notre prière de délivrance. Chacun a sa propre manière de prier, évidemment, mais il est sage de prier pour que aucun dommage ne soit causé par les retombées de notre succès dans la prière. Nous découvrons souvent que les esprits mauvais, une fois chassés ou dérangés, redoublent de violence à l'encontre de l'affligé ou des autres. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 15 et 16, « L'esprit malin lui répondit, « Jésus, je le connais, Saint Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous ? » Et là-dessus, le possédé se jeta sur eux, en maîtrisa deux, et les malmena avec tellement de violence qu'ils parvinrent à grande peine à s'enfuir de la maison, car ils étaient roués de coups et les vêtements en lambeaux. Dans cette circonstance, ces exorcistes, qui étaient les fils de Séva, n'étaient pas des chrétiens véritables et n'avaient pas l'autorité spirituelle pour accomplir des exorcismes. De la même façon, il peut nous arriver des ennuis si nous ne demandons pas l'aide de Dieu ou que nous ne sommes pas appelés à effectuer ce genre de ministère qui traite avec de telles puissances spirituelles. Je prie donc toujours pour que la force et le pouvoir des démons soient contenus, que leur résistance s'affaiblisse. Et je l'ordonne au saint nom de Jésus-Christ. Et ce commandement semble faciliter une délivrance plus rapide et qui demande moins d'efforts. Par exemple, et à vous qui n'accordez pas trop de foi à ces choses, je demande de suspendre votre jugement, et cela jusqu'à ce que vous ayez eu vous-même l'occasion de les constater. Pendant la prière de délivrance, quelques personnes se sentent comme si elles avaient été frappées par une main invisible. Elles peuvent se trouver jetées à terre ou même devenir subitement ahuries. Toutes ces manifestations interviennent de temps en temps jusqu'à ce que l'on termine. Je prie donc pour que les puissances maléfiques soient muselées et cela de manière à éviter autant que possible les effets indésirables. Un évangéliste a déclaré que la plupart des esprits malins oppriment les gens à cause de blessures subies dans leur passé, un esprit de rejet par exemple. Son collègue et lui ont découvert que ces esprits s'en vont tout tranquillement si le sang de Jésus-Christ les empêche et qu'on leur interdit d'affecter l'âme et les émotions de la personne. Troisièmement, Nous avons besoin de découvrir l'identité du démon que nous désirons chasser. D'ordinaire, ces démons sont reconnaissables à leur activité prédominante, par exemple un esprit d'autodestruction ou un esprit de peur. Les démons ont des noms et des caractéristiques qu'ils nous révèlent de plusieurs manières. A. La personne qui demande la prière sait qui est ce démon et ce qu'est l'activité qui le caractérise. Par exemple, si les péchés sexuels s'avèrent être la cause démoniaque, alors la prière peut être dirigée contre l'esprit de la luxure. Ceci ne veut pas dire que toutes les problèmes sexuels sont d'ordre démoniaque. Seulement, si c'est bien le cas, alors là, on peut s'adresser à cet esprit. Grâce au don de discernement, ceux qui prient connaissent l'objet de la prière. Et c'est le moment le plus direct, le plus rapide de savoir pourquoi il faut prier. Mais ce don véritable n'est pas nombreux. Il y a peu de personnes qui ont vraiment reçu le discernement divin pour les situations que je viens de décrire. Par l'injonction faite aux démons de s'identifier, ils obéissent à cet ordre, soit en s'exprimant par la bouche de l'opprimé, à sa grande surprise souvent, soit en lui suggérant des images mentales ou des idées très puissantes. Ce sont des signes ambigus en ce sens qu'ils ne peuvent émerger que du subconscient. Donc là aussi, la prudence et le discernement de ceux qui prient sont donc sollicités afin qu'ils puissent déterminer de façon précise ce qui se passe. Quatrièmement, si une zone d'intervention démoniaque est circonscrite, la personne doit alors abandonner les péchés qui s'y rattachent. Par exemple, si on identifie un esprit de haine, la personne doit pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Elle se coupe ainsi du péché ou de la blessure qui a permis à la force maléfique de s'installer en elle. Ajoutons que quelqu'un peut rencontrer lui-même, donc l'esprit de haine, ou de quoi que ce soit d'autre, de maléfique. Si les esprits n'ont pas une grande influence sur la personne, l'autodélivrance est possible. Le chapitre 17 dans « Délivre-nous du mal » qui a été écrit par Don Bacham décrit comment cela peut se faire. De plus, si quelqu'un a trempé dans le spiritisme ou d'autres formes d'activité occulte, il doit dénoncer par leur nom chacune de ces activités. Cinquièmement, ensuite, je demande à la personne tourmentée d'ordonner au démon de partir. C'est parfois suffisant pour faire sortir la puissance démoniaque. Sixièmement, si le démon ou les démons ne partent toujours pas, alors je me mets à prier en personne pour la délivrance. Et cette prière a plusieurs composants. C'est-à-dire, on dira par exemple, « Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas par notre autorité, ce n'est pas par mon autorité que nous chassons les démons. Nous devons nommer la puissance à laquelle ils doivent se soumettre. » Il est dit dans Saint Luc, chapitre 10, verset 17, « Seigneur, même les démons, lorsqu'ils entendent prononcer ton saint nom, t'obéissent. Alors, il faut dire, je t'ordonne de partir. » C'est un ordre et non pas une supplication. Ce genre de prière, c'est comme lorsque un père dit à son enfant de faire une chose. S'il y a un doute ou une hésitation, l'enfant s'en aperçoit immédiatement et n'obéira pas. La personne qui ordonne peut parler calmement, mais doit croire fermement que l'autorité du Christ mettra les forces du mal en déroute. Donc, dans la prière de délivrance, je trouve nécessaire de regarder la personne droit dans les yeux. Et on dira « Esprit de » et on dira son nom. Appelez si possible l'esprit par son nom. Esprit de haine, esprit de désespoir ou autre. Je t'ordonne dans le saint nom de Jésus-Christ de partir. Et sans blesser la personne qu'on est en train de délivrer ou quiconque dans cette maison. Ces ennuis peuvent être évités grâce à la prière de protection divine. Puisque la délivrance semble être considérée comme une performance spectaculaire et affreuse si les démons ne sont pas contenus, il est donc recommandé d'ordonner aux démons de se tenir tranquilles et de ne créer aucune perturbation. Et je t'envoie à Jésus-Christ afin qu'il dispose de toi comme il l'entend. Il en est qui préfère ordonner aux démons de retourner aux abîmes ou en enfer. Je préfère, quant à moi, confier leur avenir immédiat à la sagesse de Jésus-Christ. Du reste, Jésus lui-même a ordonné à leur légion d'entrer dans un troupeau de porcs. Saint Marc, chapitre 5, verset 13. Comme l'a dit David Duplessis, il y a des risques professionnels. Les exercices dans ce genre de prière sont contraignantes et pénibles. Il faut donc se protéger, se mettre sous la protection du sang de Jésus-Christ. Du reste, si vous remarquez dans le livre de Jude au verset 9, pourtant, rappelez-vous, est-il dit que l'archange Michel lui-même, lorsqu'il constata qu'il était en contact avec l'ennemi, le diable, et lui a disputé le corps de Moïse, il s'est gardé de bien de maudire son ennemi ou de proférer contre lui un jugement insultant. Il s'est contenté de dire « Que le Seigneur te punisse. » Jude, verset 9. Et septièmement, la personne sur le point d'être délivrée a l'air de savoir lorsque un démon s'en va. Et parfois, il ou elle n'y a aucun changement notable, ça peut arriver. Alors, il va dire ou elle va dire il est parti ou il n'est pas parti. Et si la personne a été délivrée, elle va se sentir beaucoup mieux. S'il y a bien entendu plusieurs démons, la personne semble également savoir quand ils sont tous partis. Et là, se traduit par une sensation de liberté, de joie, et c'est l'allègement d'un grand fardeau, c'est un véritable soulagement physique. Souvent, les démons ne se retirent pas sans lutter, et parfois, ils poussent des cris renverse la personne au sol, phénomène cité dans les évangiles, ou bien ils sortent dans une quinte de toux. Tous ces symptômes sont évidemment déplaisants et donnent au ministère de délivrance une saveur désagréable. Tous ces phénomènes peuvent paraître bizarres et angoissants, et cela tout autant que nous les détestons, et nous devons donc nous préparer à les rencontrer si nous désirons aider les gens qui nécessitent la délivrance. En d'autres occasions, les esprits secondaires ne se manifesteront pas avant qu'on les ait identifiés et fait sortir le plus important tout d'abord. Je dis les esprits secondaires, car quelques démons semblent être plus forts que d'autres, comme les vices de certaines personnes. Ils semblent se regrouper, et là où l'on trouve la colère, il peut aussi y avoir la rancune, il peut y avoir la jalousie, la dépression, le sadisme ou d'autres formes particulières de colère telles que la misogynie. Donc les démons s'identifient eux-mêmes par le nom que porte le vice. Alors, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, esprit mauvais, de te nommer qui que tu sois. Alors il répondra peut-être, je suis la luxure. Et vous direz au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir, esprit de luxure. Voici donc plusieurs esprits qui essayeront de faire surface précocement et qui empêcheront la prière de délivrance. Premièrement, il y aura peut-être la dérision. La personne peut tout à coup se mettre à rire et dire « Oh, tu ne peux nous chasser, car tu n'as pas assez d'expérience. » Deuxièmement, il peut y avoir la sottise muette. La personne ne peut remuer la langue pour parler. C'est voulu par le démon. Et là encore, ceux qui prient doivent avoir le discernement, la connaissance et l'expérience, cela afin de distinguer les démons des angoisses humaines très naturelles que la personne peut éprouver de manière à bien identifier le problème. Après la prière de délivrance, le meneur, le pasteur ou le prêtre et les autres trouveront salutaire de remercier Dieu. N'oublions jamais d'être reconnaissant, de remercier. Et ceux qui prient verbalement doivent le faire. Et ce genre de prière se prolonge parfois jusqu'à ce que le démon abandonne son pouvoir et s'en aille définitivement. Si la personne qu'on veut délivrer a été mêlée au spiritisme ou à l'occultisme, par exemple le domaine de la planche Louis-Ja, elle doit en demander pardon à Dieu. Des démons tels que celui de la divination, qui entrent dans cette catégorie d'influence, doivent être évacués les premiers. Sinon, ils empêchent l'accomplissement de toute chose. Ces esprits qui concerne l'occultisme, sont en général les plus difficiles à chasser, surtout si la personne a participé à la chasse aux sorcières. Donc, on devrait considérer tous ces facteurs sérieusement. L'idéal serait que la personne s'insère ensuite, après avoir été délivrée, qu'elle s'insère dans une communauté chrétienne. Tout comme les alcooliques découvrent qu'ils ne peuvent, pour la plupart, rester sobres sans le secours de gens qui les comprennent et leur prêtent attention, tels que les membres d'Alcooliques Anonymes, ceux qui viennent d'être délivrés ont besoin de soutien de la communauté exactement de la même manière. Si vous n'avez pas pu comprendre tout ce que je viens de vous expliquer sur ce CD, eh bien, vous pouvez réécouter cette étude. N'ayez pas peur de la réécouter, c'est utile. Tout cela peut vous sembler compliqué, voire même moyenâgeux. Je vous demande donc de laisser cela sur le coin du feu, si l'on peut dire ainsi, jusqu'à ce que vous ayez une occasion vous-même de vérifier par vous-même que ces choses sont vraies et véritables. J'aimerais simplement vous faire part des merveilleuses conséquences de la délivrance d'un pasteur qui a personnellement été dans ce cas-là. Voici ce que dit ce pasteur. Il est arrivé des choses merveilleuses depuis que le Seigneur m'a délivré. J'ai pensé qu'il fallait que je vous les décrive. D'abord, et par-dessus tout, ma foi en l'amour puissant de Jésus-Christ s'est considérablement accrue. La force de la conviction qu'il est avec moi dans la prière me stupéfie. Et quand je prie pour la guérison ou la délivrance, je ne peux pas être plus sûr de sa présence et je désire aider maintenant les gens grâce à cela. Je sens vraiment que mon ministère de délivrance qui va en s'étendant est tout ce dont j'avais besoin pour construire ma foi. C'est le témoignage d'un pasteur qui nous donne cette information précise. Un jour, voyez-vous, vous comprendrez quand vous-même, chers amis, vous serez confrontés à certains problèmes désastreux et pénibles de la vie. Ce qui me frappe le plus dans ma vie personnelle, c'est la permanence de la guérison. En regardant la liste des démons que j'ai chassés, je suis reconnaissant qu'aucun d'entre eux n'ait pas eu plus de pouvoir sur moi. Je n'avais jamais réalisé qu'un chrétien libre puisse consacrer sa vie au Seigneur d'une manière si totale. Ma vie est maintenant pleine d'une joie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Maintenant, chers amis, la prière inspirée que le Seigneur m'a donnée à vous transmettre peut être utilisé par n'importe quel frère ou sœur qui est consacré pour servir de tout cœur le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien cette prière. Je t'éloigne, esprit du mal, et je te somme par le Dieu vivant, le seul et vivant Dieu, le Dieu saint, de quitter cet endroit et cette personne et de ne jamais y revenir. Je t'ordonne de fuir cela au nom de Jésus-Christ qui t'a vaincu et qui a triomphé de toi sur le bois de la croix. Je te commande de ne jamais terrifier ceux qui vivent ici au nom du Père, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Nous prions, Seigneur, de visiter cet endroit, cette maison, et de déjouer les plans mauvais de l'ennemi, et qu'il puisse, au nom du Seigneur, ne plus jamais faire du tort. Merci Seigneur, sois béni d'éternité en éternité pour la délivrance de ceux qui sont opprimés. Amen. Amen.